إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui donc le cours 99 dans l'explication du livre Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc on est arrivé donc à l'explication, puisqu'on a expliqué déjà au sujet de l'ijma', le consensus des salafs au sujet de la question qu'il n'est pas permis pour le musulman d'imiter les juifs et les chrétiens et les kuffars en général, de même que d'imiter le shaytan, d'imiter les gens de la jahiliya, d'imiter les mushrikines, tous ceux qui sont en opposition avec la voie de l'islam. On n'a pas le droit de leur ressembler, de les imiter. De leur ressembler et de les imiter dans ce qui leur est particulier et spécifique. Et ici donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle mentionne des narrations, des paroles des salafs parmi les sahaba, qui montrent que c'était ça leur position, qu'ils étaient tous d'accord sur ce principe là que c'est un principe qui était établi chez eux et que c'était quelque chose qui n'était pas à remettre en question, c'est à dire que c'est quelque chose qui était accepté de tous les sahaba, que il faut contredire les kuffar et les mushrikines, il ne faut pas leur ressembler, il ne faut pas les imiter. Et donc, pour expliquer, après avoir mentionné les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, eh bien là, il ramène des paroles des sahaba. Et donc, ici maintenant, il rapporte, il dit « Wa rawa l'imam Ahmad fil musnad, haddathana Aswad ibn Amir, haddathana Hammad ibn Salama » عن أبي سنان عن عبيد ابن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي؟ فقال إن أخذت عني فصليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ما ضاهيت اليهودية، لا ضاهيت اليهودية لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناس في ردائه وكنس الناس. Donc ça c'est une narration ici qui est rapportée par l'imam Ahmad dans la Musnad, et il mentionne dans cette narration selon Abi Shu'aib, Ubayd ibn Adam et Abi Maryam que Omar ibn al-Khattab était dans un endroit qu'on appelle Al-Jabiya, et on a mentionné la conquête de Jérusalem, Bayt al-Maqdis. Et Hamad ibn Salama, il dit donc que Abu Sinan a rapporté, selon Ubayd ibn Adam, qu'il a entendu Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui disait à Ka'b, où est-ce que tu vois que je devrais prier? Donc il était dans Bayt al-Maqdis, al-Quds, il est arrivé là-bas avec les compagnons qui étaient avec lui, et il a demandé l'opinion à Ka'b. Où est-ce que tu penses que je devrais faire la salat? D'où est-ce que je devrais diriger la salat dans Bayt al-Maqdis? Parce que vous voyez que Bayt al-Maqdis, c'est grand. Al-Quds, c'est un espace qui est grand. Et il y a l'endroit qu'on appelle As-Sakhra. C'est de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le mi'raj. Puis, juste en face, il y a Bayt al-Maqdis, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Et aujourd'hui, ça c'est quelque chose comme on va en parler après, As-Sakhra, on va expliquer quelque chose à ce sujet-là aussi. Mais ici, on voit que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand il a posé la question, et Ka'b lui a répondu, il lui a dit, si tu prendrais mon opinion, eh bien moi je prierais derrière As-Sakhra, derrière le rocher. Et de cette façon, toute Jérusalem serait devant toi. Toute Bayt al-Maqdis, al-Quds serait devant toi. Tandis que Omar, il a dit, si je fais ça, dans ce cas-là, je vais imiter les Juifs. Et il a dit donc, non, je ne vais pas prier à cet endroit-là, mais je vais prier à l'endroit où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié. Et il s'est donc mis en avant de As-Sakhra. Et donc, il a prié à cet endroit-là, là où il y avait le devant de la mosquée, le devant de Al-Quds. Et donc, il a étalé son vêtement ou son rida, puis il a commencé à enlever les saletés puis les poussières qui étaient par terre, et tous les autres qui étaient avec lui parmi les sahabes ont fait la même chose avant de commencer à faire la salat. Cheikh Al-Fawzan, il explique cette narration là il dit qawluhu sami'tu Umar radiyallahu anhu yaqulu li Ka'b ayna tura an usalli لما فتح المسلمون بيت المقدس في خلافة عمر رضي الله عنه اشترط النصارى الذين هم في بيت المقدس أن يحضر عمر ليسلموه مفاتيح القدس فجاء رضي الله عنه إلى بلاد الشام واستقبله قادة الجيش على رأسهم أبو عبيدة ثم إن النصارى والقساوسة دفعوا إليه مفاتيح بيت المقدس وصار المسجد بيد المسلمين والشاهد هنا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يصلي في بيت المقدس فاستشار كعب الأحبار وكان من علماء اليهود قبل أن يسلم فأشار إليه أن يصلي خلف الصخرة لتكون القدس كلها بين يديه فعمر تنبه لذلك وقال ضاهيت اليهودية شابهت اليهودية لأن اليهود كانوا يستقبلون الصخرة ونحن منهيون عن التشبه بهم ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من الصلاة خلف الصخرة وكون الصخرة بينه وبين الكعبة لئلا يتشبه باليهود في استقبالها وهذا دليل على الاحتراز من التشبه باليهود ثم إن عمر جعل الصخرة خلف ظهره وهذا هو موضع المسجد الأقصى الآن. نعم. Donc on va commencer par traduire ce passage là. Ici le cheikh il explique donc cette parole quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a demandé à Ka'b sa position, son opinion au sujet de l'endroit où il devait se placer pour diriger la salat à Beit al-Maqdis, hein, à Jérusalem, dans la mosquée de Jérusalem al-Quds. Et Cheikh al-Fawzan, il explique que lorsque les musulmans ont pris Beit al-Maqdis, c'était durant le khilafa de Omar, durant le règne de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et les chrétiens, lorsqu'ils ont été donc conquis, et c'était eux qui dirigeaient à l'époque Beit al-Maqdis, donc lorsqu'ils ont perdu la bataille contre les musulmans, ils ont accepté de remettre les clés de la ville à Omar ibn al-Khattab, à condition qu'il venait les prendre lui-même, qu'il venait lui-même pour prendre les clés de la ville. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, s'est rendu lui-même dans la région de Hasham. Hasham, c'est la Syrie, la Palestine et toute cette partie, hein, qu'on appelle en arabe Hasham. Et donc, lorsqu'il est arrivé dans la région, il a été accueilli par les responsables et les dirigeants de l'armée, et à leur tête, il y avait Abu Ubaida ibn al-Jarrah, un des grands parmi les sahaba, et les chrétiens et les prêtres lui ont donné les clés de la ville et les clés de Beit al-Maqdis. Donc, à partir de cette époque, eh bien, la mosquée de Al-Quds a été entre les mains des musulmans. Et qu'est-ce qu'on voulait mentionner ici par rapport à cette narration vis-à-vis du sujet, ou par rapport au sujet du livre, puisqu'on est en train d'expliquer l'interdiction d'imiter les juifs et les chrétiens et les koufars en général? Eh bien, le cheikh explique que ici Omar radiallahu anhu, il voulait expliquer que lorsqu'il a voulu faire la salat, il a demandé l'opinion de Ka'b al-Ahbar. Et Ka'b al-Ahbar, avant l'islam, il faisait partie des savants des juifs. Avant d'avoir accepté l'islam, il faisait partie des juifs, des savants parmi les juifs, donc les rabbins. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lui a demandé donc son opinion, où est-ce qu'il devrait se placer pour diriger la salat. Et Ka'b lui a répondu en disant qu'il devrait se placer derrière le rocher, derrière As-Sahra, le rocher à partir duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le mi'raj, selon ce qui est rapporté à ce sujet-là. Et il dit, si tu te places à cet endroit-là, c'est-à-dire derrière le rocher, c'est-à-dire en face du rocher, eh bien, le Quds est devant toi. Hein? Toute Jérusalem sera devant toi. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a médité là-dessus, puis il a dit par la suite, si je fais ça, donc j'aurais imité les juifs. Hein? Parce que ce serait une imitation des juifs, parce que les juifs se tournaient vers ce rocher-là pour leur prière. Et on a été interdit de ressembler et d'imiter les juifs. Et lorsque Omar radiallahu anhu a refusé donc de prier derrière ce rocher-là, hein, et de mettre le rocher entre lui et la Kaaba pour éviter justement d'imiter les juifs et de ressembler aux juifs dans le fait que eux ils se tournent devant ils se mettent en avant de ce rocher-là quand ils prient, eh bien, ça c'était une preuve c'est une preuve supplémentaire pour prouver qu'il faut s'éloigner de la ressemblance des juifs. Hein, que ça fait partie de l'interdiction, hein, d'imiter les koufars en général. Puis Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a prié en gardant le rocher derrière lui. Et il a prié donc en avant du rocher. Et c'est l'endroit où se trouve aujourd'hui Al-Masjid al-Aqsa. Ça, c'est important à notre époque aussi. Pourquoi? Parce que beaucoup de musulmans ignorent réellement où se trouve Al-Masjid al-Aqsa. Et beaucoup de musulmans pensent que Al-Aqsa, c'est Masjid al-Sakhra. Ils ne font pas la différence entre Al-Aqsa ou Masjid al-Sakhra. Masjid al-Sakhra, c'est la mosquée qui a un dôme doré et qui est bleu. Hein? Ça, c'est la mosquée que la plupart des gens, lorsqu'on parle de la Palestine, c'est cette image-là qu'on voit. C'est-à-dire la mosquée avec un dôme doré et qui est de couleur bleue. Donc ça, en réalité, c'est pas Masjid al-Aqsa. Ça, c'est Masjid al-Sakhra. Masjid al-Aqsa, elle est en avant de cette mosquée-là. Hein? Elle est en avant de cette mosquée-là et elle a un dôme qui est gris. Hein? Noir, gris et non pas doré. Et c'est ce qui fait que, à cause de ça, beaucoup de musulmans ont pensé que la mosquée Masjid al-Sakhra, c'était ça, l'Aqsa. Alors, les musulmans ne priaient pas dans Masjid al-Aqsa, ils priaient pas devant le rocher à l'époque des Sahaba. Ils se mettaient en avant du rocher. Hein? Le rocher était derrière leur dos. Et aujourd'hui, certains musulmans, même ils ont, comme Cheikh Al-Albani l'a mentionné dans un de ses audios, il expliquait que certaines personnes, ils ont agi d'une manière incorrecte vis-à-vis de ce rocher-là, et ça donnait l'impression à certaines personnes que les musulmans vénéraient le rocher, hein, alors que ce rocher-là n'a aucune importance pour les musulmans en réalité. Et il n'a aucune valeur et aucun pouvoir, on n'a pas le droit d'avoir une croyance quelconque vis-à-vis de ce rocher-là. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a refusé de prier devant le rocher et il s'est mis en avant du rocher. Pour ce qui est de la mosquée Al-Aqsa, je vais poster sur mon compte, sur Twitter, je vais vous poster les photos de Al-Aqsa, la mosquée de Al-Aqsa, pour que vous puissiez savoir la différence entre la mosquée de Al-Aqsa et la mosquée de Al-Sakhra. Ensuite, le cheikh, il explique la fin de cette citation, ou la fin de cette narration. Il dit « Wa qawluhu thumma basata rida'ahu li'anna bayt al-maqdis kana mamlu'an bil-awsakh » بالأوساخ والقاذورات والنفايات فعمر رضي الله عنه نظفه من هذه القاذورات وبشر ذلك بنفسه وكنس بردائه رضي الله عنه ففعل الناس مثله ونظفوا المسجد من هذه القاذورات. Donc ici il dit que Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه il a étendu son vêtement et il l'a utilisé pour balayer les saletés qui étaient par terre. Et il a fait ça lui-même. Alors que c'est le khalifa de l'empire musulman à l'époque. Et malgré tout, il nettoyait lui aussi avec les autres. Et tous les autres ont commencé à nettoyer parce qu'à cet endroit-là, il y avait plein de saletés. Allah al-Musta'an. Donc, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a nettoyé la mosquée, puis après ils ont fait la salat à cet endroit-là. Il dit Qultu, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite Qultu, salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi masjid bayt al-Maqdis fi ladat al-Isra qad rawaha muslimun fi sahihihi min hadithi Hammad ibn Salama an Thabit, an Anas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة ثم يربط بها بالحلقة التي يربط بها الأنبياء قال: ثم دخلت المسجد فصليت به ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء. وذكر الحديث. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ينكر أن يكون صلى فيه، لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. Donc le cheikh il mentionne donc Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah il explique. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière dans Bayt al-Maqdis la nuit de Al-Isra. Et ça a été rapporté par Muslim dans son Sahih selon Hammad ibn Salama. Hammad ibn Salama, c'est un des imams parmi les imams des salafs. Et il l'a rapporté lui-même de Thabit, selon Anas, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: on m'a amené al-buraq. Et al-buraq, c'est l'animal ou la monture qui est blanche et qui est longue, qui est entre l'âne et le mulet. Et c'est un animal extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pas une monture ordinaire, c'est un animal ou une monture exceptionnelle. Et quand elle fait un pas, eh bien, son pas, il atteint la distance du regard. Et c'est ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a atteint Bayt al-Maqdis. Il a atteint Bayt al-Maqdis pendant cette nuit-là de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis pendant cette nuit. Et c'est de cet endroit-là, de Bayt al-Maqdis, où il a prié. Il dit: j'ai attaché al-Buraq avec le cercle ou avec quelque chose par laquelle les prophètes attachent leur monture. Et il dit ensuite: je suis entré dans la mosquée de Bayt al-Maqdis et j'ai fait 2 rak'at. Puis ensuite je suis sorti et Jibril est venu avec un contenant dans lequel il y avait du vin et un autre contenant dans lequel il y avait du lait. Alors j'ai choisi le lait. Et donc Jibril a dit, alayhi salam, tu as choisi la fitra. Puis il s'est élevé avec lui vers le ciel. Il est monté avec eux vers le ciel. Et donc ça, c'est le mi'raj, c'est la nuit de l'ascension vers les cieux du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a visité Bayt al-Maqdis. Ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu lui avait renié avait nié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié à Bayt al-Maqdis parce que il n'avait pas la nouvelle ne lui était pas parvenue. L'information ne lui était pas parvenue. Et il a donc cru que s'il avait prié à cet endroit-là, ça aurait été obligatoire pour la Umma de prier à cet endroit-là. Cheikh Al-Fawzan, il explique tout ça. Il dit: قوله أتيت بالبراق وهو داب. يفيد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ببيت المقدس وأحاديث الإسراء والمعراج كثيرة وأغلبها في الصحيحين أو في أحدهما والإسراء والمعراج ثابتان في القرآن. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما المعراج فمذكور في سورة النجم حيث قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Donc le cheikh il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il mentionne donc ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'il a eu al-buraq, hein. Il dit on m'a amené al-buraq. Al-buraq c'est cet animal sur lequel il est monté pour aller vers Bayt al-Maqdis. Et dans ce hadith donc on mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Bayt al-Maqdis. Et ça fait partie des choses qui ont été mentionnées dans les hadiths au sujet de l'ascension et du voyage nocturne. On appelle en arabe al-Isra ou al-Mi'raj. Al-Isra, c'est le voyage durant la nuit, et al-Mi'raj, c'est l'ascension. Hein? Et il y a plusieurs donc hadiths sur ce sujet dans le Coran et dans la Sunna. La plupart d'entre ces hadiths se retrouvent dans les deux sahih de Bukhari et Muslim, ou bien dans un des deux. Al-Isra ou al-Mi'raj, le voyage durant la nuit, ainsi que l'ascension, les deux sont mentionnés dans le Coran également. Et l'exemple de la mention de Al-Isra, elle est dans Surat Al-Isra, le premier verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée Al-Haram, à la Mecque, à la mosquée Al-Aqsa, hein, en Palestine, à Jérusalem, dont nous vous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Donc ça c'est au sujet du voyage nocturne, Al-Isra. En ce qui concerne Al-Mi'raj, ça c'est mentionné dans Surat Al-Najm. Surat Al-Najm, les versets 13 à 18, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de Sidrat al-Muntaha. » Sidrat al-Muntaha, c'est un arbre c'est l'arbre de la limite, un arbre au septième ciel que l'ange Gabriel ne pouvait dépasser. Hein? Et donc ça c'est lors de Al-Mi'raj, lors de l'ascension. Donc il dit, il l'a pourtant vu, hein, lors d'une autre descente, près de Sidrat al-Muntaha, près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa. عندها جنة المأوى. إذ يغشى au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Donc, c'est ça. Ça c'est les versets dans Sourate An-Najm qui font allusion à l'ascension vers le plus haut des cieux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette ascension-là durant la nuit de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Le Cheikh Al-Fawzan il dit ensuite wa amma wasilatu naqlihi sallallahu alayhi wa sallam min Makkah al-Musharrafa ila al-Maqdis فهو البراق وهي دابة وليست من جنس دوابنا وإنما هي دابة سريعة العدو تضع حافرها عند منتهى بصرها أو عند منتهى طرفها فركب صلى الله عليه وسلم البراق وصارت به حتى وصلت به إلى بيت المقدس وهناك ربط هذه الدابة في المكان الذي كانت تربط فيه أو تربط فيه الأنبياء لأن سنة الأنبياء واحدة ثم دخل وصلى في بيت المقدس قبل أن يعرج به ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم نزل وصلى أيضا بالأنبياء حيث جمعهم الله له وصلى بهم ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة، فكانت معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن جحد الإسراء أو المعراج فإنه يكفر بالله عز وجل، لأنه منكر لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la monture sur laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voyagé de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis, c'est la monture, l'animal qu'on appelle al-Buraq. Et c'est un animal qui ne fait pas partie des animaux que nous connaissons. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas cet animal-là. C'est un animal que nous, dans notre monde, on ne connaît pas. C'est un animal inconnu des êtres humains. Et cet animal, il est très rapide. Il peut faire en un instant la distance de la limite du regard. C'est-à-dire que là où ton regard peut voir à l'horizon, eh bien en un instant il fait ce trajet-là. Donc il voyage extrêmement rapidement et il est donc arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Bayt al-Maqdis, et à cet endroit-là il a attaché cet animal. Il l'a attaché avec ce par quoi les prophètes attachent leur monture, parce que l'exemple des prophètes c'est un exemple semblable, ils se suivent tous. Et il est entré dans Bayt al-Maqdis, dans la mosquée de Al-Quds, et il a fait la salat à cet endroit-là, puis il a été élevé par la suite, on l'a amené vers les cieux. Par la suite, donc, il a monté dans les cieux, vers le dernier des cieux, et il a atteint As-Sidrat al-Muntaha, là où même les anges ne peuvent pas aller. Il est passé ce degré-là, et ensuite il est redescendu et il a prié avec les prophètes. Il a dirigé la prière, et les prophètes étaient derrière lui et ont prié avec lui. Et ça, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala les a toutes réunis à ce moment-là pour qu'ils puissent prier avec eux. Puis ensuite il est retourné dans cette même nuit à la Mecque. Et ça fait partie des miracles, parmi les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh explique que celui qui renie cet événement-là, ou qui ne croit pas en al-Isra ou al-Mi'raj, eh bien il a renié la foi en Allah, parce qu'il a renié ce qui est mentionné dans le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il renie également ce sur quoi tous les musulmans ont été d'accord. Il dit ensuite wa laqad usriya bihi sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan la manaman wa usriya bi ruhihi wa jismihi ay lam yakun al isra bir ruhi dun al jism wa lam yakun manaman yani hulman wa innama kana yaqazatan wa haqiqatan. وإنما ذكر الشيخ هذا من باب الاستفاضة في هذه المسألة لما ذكر فيها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. Donc il dit que donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait donc faire ce voyage nocturne, et ce voyage a eu lieu en éveil, en état d'éveil, et non pas en rêve. Et également, il a fait ce voyage avec son âme et son corps ensemble, et non pas seulement avec son âme. Donc, c'est en état d'éveil et avec son corps et son âme, les deux ensemble. Et il dit que, c'est-à-dire que l'Isra, c'était pas uniquement avec son âme, sans son corps. Non, c'était le corps et l'âme ensemble. Et c'était pas pendant qu'il dormait, c'était pas un rêve, c'était en état d'éveil, et c'était quelque chose qui s'est produit en réalité. Et le cheikh il mentionne cela dans le but de rajouter plus d'explications et de détails au sujet de cette question lorsqu'il a mentionné le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat à Bayt al-Maqdis. Hein? Il dit ensuite وَقَدْ كَانَ حُذَيْفَ ابْنَ الْيَمَانِ يُنْكِرْ أَنْ يَكُونَ صَلَّى فِيهِ فَهُوَ مَعْذُورٌ فهو معذور لأنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لم يكن له أن يخالفه رضي الله عنه فهذا من باب الاعتذار عن حذيفة رضي الله عنه والحجة فيما ثبت لا فيما قاله أو رآه الصحابي إذا كان يخالف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, ici il explique par la suite que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, hein, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait renié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié dans Bayt al-Maqdis, le cheikh explique que il est excusé d'avoir nié cela parce que il n'avait pas reçu l'information de ce hadith là, et donc si cette information lui était parvenue, il ne l'aurait pas nié, il ne l'aurait pas contredit. Et donc ça c'est dans le but ici de montrer des excuses, d'excuser Hudhayfa radiyallahu anhu, et que d'expliquer en même temps que la preuve est dans ce qui a été rapporté de manière authentique et non pas dans ce que le sahabi a dit ou dans ce qu'il a vu qui vient en contradiction avec ce qui a été rapporté de manière authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh il dit fa Umar radiyallahu anhu, cheikh al-islam ibn Taymiyyah, il continue, il dit fa Umar radiyallahu anhu aaba ala Ka'b al-Ahbar mudahat al-Yahudiyya أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. وقد كان عمر رضي الله عنه في هذا الباب وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسيات أو من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية. نعم، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا. نعم، فهو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفر عبقري فرية حتى صار الناس بعطن، فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعر الدين الحنيف. نعم، ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقض عرى الإسلام مطيعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاقا عند كتاب وقافا عند كتاب الله وقافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتذيا حذو صاحبيه مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم، يعني وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى إن العمدة في الشروط حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، حتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله، حتى روي عنه أنه أحرق الكتب العجمية وغيرها، وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألبسهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة، وستأتي عند ذكرها إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار والنهي عن الدخول عليهم فيها، من النهي عن تعلم رطانة الأعاجم وما يتبين به ثبوت قوة شكيمته، في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم. ثم ما كان عمر رضي الله عنه قد قرره من السنن والأحكام والحدود، فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. Donc on va traduire cette partie, puis on va s'arrêter là parce que on a atteint la limite de notre temps pour ce cours aujourd'hui. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a donc blâmé Ka'b al-Ahbar lorsqu'il voulait imiter les juifs, et c'était uniquement dans le fait de vouloir se tourner vers As-Sakhra ou se mettre devant As-Sakhra, parce qu'il y avait dans ça une ressemblance dans le fait que les juifs, eux, considéraient ça comme étant leur qibla, leur direction de prière qu'ils considéraient être toujours valable. Même si le musulman, lui, s'il se tournait dans cette direction-là, ça ne serait pas dans le but de la prendre comme qibla, de la même manière que eux. Mais Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a considéré que ça, c'était pas bon, puisque c'était une imitation des juifs. De même que Omar, radiyallahu anhu, il avait donc plusieurs politiques qui étaient très sages et qui était en accord avec yani le reste de sa biographie satisfaisante et agréée, du fait que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a fait beaucoup de bonnes choses pour l'islam, et on connaît donc sa biographie à ce sujet-là et les efforts qu'il a fait pour défendre l'islam. Donc c'était pour dire que ici le cheikh, il fait allusion donc à la force de Omar ibn al-Khattab, à sa force, et comment dans son khilafa il a réussi à faire agrandir les limites de l'empire musulman à ce moment-là, et que c'était un des grands hommes parmi les grands hommes de l'islam, et qu'il a par sa force donné aux musulmans et à l'islam de la fierté et de la puissance, et qu'il a permis également de rabaisser et d'humilier la mécréance et ceux qui supportaient la mécréance. Et donc c'est un des symboles de cette religion, un des symboles de l'islam et de cette religion. Et il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour empêcher que le câble de l'islam s'affaiblisse. Et il a fait ça, bien entendu, en obéissant à Allah et à son messager, et en s'arrêtant aux limites du livre d'Allah, en mettant en application la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait pris comme compagnon, ainsi que Abu Bakr radiyallahu anhu, hein, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tout le temps avec Abu Bakr et Omar, hein, et c'était les deux plus proches d'entre ses compagnons. Donc Omar ibn al-Khattab, il faisait partie des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il est resté toujours avec les grands parmi les sahaba. Il est toujours resté avec les premiers de ceux qui ont accepté l'islam, comme Uthman et Ali, Talha et Az-Zubayr, et Sa'ad et Abdurrahman ibn Auf et Ubay ibn Ka'b et Mu'az ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit et beaucoup d'autres également. Et d'autres parmi ceux qui avaient de la connaissance et de la compréhension de l'islam, et qui avaient une bonne opinion ou un bon conseil, une sincérité pour l'islam et les musulmans. Et donc les piliers qu'il a établis dans les conditions pour les gens du livre, hein, lorsque ils ont accepté de se soumettre et de remettre les clés de la ville aux musulmans, ils ont accepté les conditions que Omar a établies, et ces conditions-là ont été acceptées par tous les musulmans, c'est-à-dire tous les musulmans ont agréé les conditions que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a établies pour eux. Et il a même, à son époque aussi, il refusait de prendre l'aide et d'employer un non-musulman pour les affaires de l'État et pour les affaires qui concernaient les musulmans. Hein? Et il refusait de l'honorer après que Allah subhanahu wa ta'ala les ait humiliés. Et de même qu'il mentionne qu'il a brûlé les livres des kuffars et des mushrikines, hein, qu'il a trouvés. Et c'est lui également qui a fait en sorte que les innovations ne se propagent pas à son époque. Et on a vu l'exemple, comment il a agi envers Sabir ibn Asal, hein, et son histoire, elle est célèbre. Hein, alors que c'est quelque chose qu'on va expliquer en détail lorsqu'on va le mentionner plus tard au sujet des célébrations des fêtes des kuffars. Et justement, nous, on approche de cette période de l'année où les kuffars, justement, ils font leur grande célébration de Noël et du jour de l'an et des choses de ce genre. Donc c'est un rappel en même temps pour comprendre que les musulmans n'ont pas le droit de célébrer ces fêtes-là. Ils n'ont pas le droit de participer à ces fêtes-là, que ce soit des fêtes qui sont organisées par des individus ou par des compagnies, ou bien par un travail, ou bien par dans les écoles, ou peu importe. Hein. Le musulman, il n'a pas le droit de participer à ces fêtes, il n'a pas le droit de participer à des échanges de cadeaux, ou à des réveillons, ou à des réceptions, ou à toute célébration qui serait reliée à ce genre d'occasion, parce que cela fait partie des célébrations des kuffars, des mushrikines et des juifs et des chrétiens, et il est interdit aux musulmans de prendre part à ce genre de fêtes, parce que ces fêtes-là sont reliées à leurs pratiques religieuses et à leurs croyances, hein, que ce soit des croyances ou des pratiques religieuses ou non religieuses, peu importe, yani, le musulman n'a pas le droit de prendre part à ces pratiques-là. Et le cheikh explique également aussi que... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le cheikh explique également que tout ça, c'est des exemples qu'on a vus donc dans le comportement de Omar ibn al-Khattab, comment il a même interdit d'apprendre les façons de parler des kuffars, des mushrikines, et d'imiter leur façon de parler. Hein? Et également, donc tout ça c'est des exemples qu'on trouve dans les principes et les actions de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et ce qu'il a établi comme sunan, comme règle, comme limite, comme principe, eh bien, Uthman ibn Affan radiallahu anhu les a acceptés après lui. Hein? Il a été d'accord avec ça. Et il a appliqué les mêmes principes aussi par la suite. Donc, ça, c'est le point que le Cheikh a mentionné. Puis, Cheikh Al-Fawzan, il va mentionner les commentaires là-dessus. Mais ça, on va le lire au prochain cours. On va le lire au prochain cours. Parce que ce serait un peu long si on commençait à le faire maintenant, on ne pourrait pas terminer. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et donc le prochain cours, ce sera le cours numéro 100. Donc c'est ce qui vient conclure notre cours d'aujourd'hui. Donc on avance hein, tranquillement, mais sûrement, alhamdoulilah, dans ce livre qui est un livre unique, hein, en son genre, puisqu'il élabore sur des principes et des points qui, d'une manière qui n'a pas été fait par d'autres savants avant lui, sur ce sujet-là. Il n'y a pas de savant avant lui qui avait réuni toutes ces règles et tous ces principes et toutes ces preuves dans un seul livre. Donc, il a vraiment fait un travail vraiment important avec ce livre-là, et ce livre donc reste pour nous une référence, surtout à notre époque. On en a besoin de ce genre de livre-là. Et certains parmi les musulmans qui vivent en Occident, parfois ils disent pourquoi tu parles de ce sujet alors qu'on est en Occident. Eh bien, si on n'en parle pas en Occident, alors où est-ce qu'on va en parler? On est en plein dans la fitna à propos de ce sujet-là, de l'imitation des koufars. Donc je pense que s'il y a des musulmans qui en ont besoin, c'est bien en premier nous qui sommes en plein milieu de la société des non-musulmans. Et bien entendu, les musulmans qui vivent dans les pays musulmans aussi, ils ont besoin de ça aussi, parce que il y a toujours des influences hein, qui sont présentes chez les musulmans à notre époque aussi. Même dans les pays musulmans, les koufars, ils font tout ce qu'ils peuvent pour influencer les musulmans à adopter le mode de vie occidental et la mentalité occidentale, et ils veulent dénaturer donc les musulmans et les éloigner de leur religion et de leur pratique islamique. Donc ils font tout pour les influencer de cette façon-là, et ils le font pas seulement avec les musulmans, ils le font aussi avec d'autres parmi les koufars et les mouchriquines aussi. Donc avec les musulmans, et ils redoublent d'efforts, hein, parce qu'ils savent que pour eux, les musulmans qui sont attachés à leur religion, pour eux c'est un obstacle à leur objectif d'égarer les gens. Donc ils font avec eux le double des efforts, et ils veulent tout faire pour les éloigner donc de la pratique de l'islam, pour que les musulmans deviennent comme eux, pour que les femmes se dévoilent et pour qu'elles s'habillent comme les femmes de leur société, et pour que les hommes également suivent les modes de croyances et les pratiques de leur société aussi, et délaissent les principes islamiques. Donc c'est un rappel pour nous de faire attention à ça. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته